Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, un enfant conçu par don de sperme ou d'ovocyte peut-il connaître le nom du donneur ? Cette question revient régulièrement à l'Assemblée nationale pour proposer de lever l'anonymat, même partiellement, dans le cadre de la modification des lois de bioéthique. À l'origine de cette réflexion, de jeunes adultes, enfants, issus d'insémination artificielle avec donneur, qui se sont constitués en groupe de pression pour faire entendre leur mal-être, la souffrance de ne pas connaître ce donneur qui leur a donné en partie la vie. Mais les médecins du Conseil consultatif national d'éthique, des psychiatres et d'anciens directeurs de CECOS, Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, pensent au contraire que le don doit rester anonyme. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec nos deux invités, les professeurs Georges David et Pierre Jouannet. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Georges David, vous êtes professeur de biologie de la reproduction, fondateur en 1973 des CECOS, Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, membre de l'Académie nationale de médecine. Et puis Pierre Jouannet, vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes, ancien responsable du service de biologie de la reproduction du CECOS, de l'hôpital Cochin, et vous êtes également membre de l'Académie de médecine. Au cours de cette émission, je vous propose de vous pencher sur les différents protagonistes qui sont en jeu dans cette levée potentielle de l'anonymat. Les donneurs, tout d'abord. Une deuxième partie consacrée aux couples qui se tournent vers un CECOS pour bénéficier d'une IAD, insémination artificielle avec donneur. Et puis enfin, les enfants, fruits de cette assistance médicale à la procréation avec don. Et puis, pour nous aider à y voir plus clair, nous irons faire un tour chez nos voisins suédois, britanniques et allemands, qui font partie des 10 pays européens à avoir levé cet anonymat. Auparavant, quelques points pratiques pour bien comprendre le sujet. Combien de couples viennent vers vous, auprès d'un CECOS, pour faire une IAD ? Et puis, de manière pratique, comment ça se passe pour bénéficier d'un don de gamètes dans un CECOS ? Georges David, pour commencer, combien de personnes font appel à un CECOS pour une IAD ?
Les chiffres ont évolué. Il y a une vingtaine d'années, la seule possibilité pour les couples à stérilité masculine était de recourir éventuellement aux donneurs. Et on avait des demandes de l'ordre de 2000 à 3000 par an de couples. Mais depuis la découverte de l'injection directe d'un spermatozoïde dans l'ovocyte, qu'on appelle communément l'ICSI, il y a eu une partie des stérilités masculines qui ont pu bénéficier de ce traitement par l'ICSI. Donc, on est en régime de croisière, et là je parle sous le contrôle de Pierre Jouannet, dont les dernières années a été responsable des CECOS. Je pense qu'on est aux alentours de 1200, 1500.
Oui, entre 1000 et 1500, oui.
Entre
1000
et 1500.
Alors, ce qui me semble important de préciser quand on parle de ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la situation de procréation, pardon, quand les personnes qui y ont recours sont des couples, le plus souvent stériles. Situation qui correspond à ce qui est autorisé par la loi en France. La situation est très différente dans d'autres pays, puisque en matière de don de sperme, les femmes seules ou les femmes homosexuelles peuvent aussi avoir accès à ce type de procréation. Et quand on est dans cette situation-là, les questions qui se posent sur le donneur, les enjeux, les conséquences du don sont extrêmement différentes de celles que nous connaissons, nous, en France. Et si je dis ça, c'est parce que on voit une évolution dans tous ces pays très importante. Et aujourd'hui, par exemple, en Grande-Bretagne, en Suède, aux États-Unis et ailleurs, où on a levé l'anonymat, la très grande majorité des inséminations faites avec sperme de donneur sont faites pour des femmes seules ou pour des femmes homosexuelles. Et donc, la situation n'est pas tout à fait la même que celle que nous connaissons, nous, en France.
Mais avec peut-être aussi une confusion, et on en reparlera au cours de cette émission, entre un père biologique et un géniteur.
Oui, bien sûr, mais dans la situation que j'évoque, il n'y a pas de père du tout. Quand une femme est seule pour avoir un enfant, où deux femmes souhaitent avoir un enfant ensemble, il s'agit d'avoir un enfant sans père. Donc on n'est pas du tout dans la situation que nous nous évoquons.
Alors très rapidement, avant d'en venir à ces premiers protagonistes que sont les donneurs, comment ça se passe au sein du CECOS? Il y a des donneurs qui viennent en couple pour faire un don et après il y a une série d'intermédiaires avant qu'il y ait un couple receveur. Comment ça se passe? Georges David ou Pierre Jouannet? Pierre
Jouannet. Oui, en fait le point de départ ce sont des personnes, des couples confrontés à la stérilité et à une stérilité masculine quand il s'agit d'un don de sperme, une stérilité féminine quand il s'agit d'un don d'ovule, et qui souhaitent malgré tout devenir parents d'un enfant en utilisant les ovocytes d'un tiers ou les spermatozoïdes d'un tiers. Donc le point de départ de l'aventure, c'est toujours ces demandes de couple. Pour pouvoir répondre à ces couples, il faut qu'il y ait des donneurs. Donc comment devient-on donneur de sperme ou donneuse d'ovule? On devient donneur de sperme ou d'ovule quand on a été informé et sensibilisé à cette question. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que ce travail d'information et de sensibilisation, nous les centres, ne pouvions pas le faire. La loi dit que c'est l'Agence de la biomédecine qui doit faire cette sensibilisation. Et malheureusement, on ne peut pas dire que l'activité d'information et de sensibilisation soit très intense. Donc il y a un manque d'information. Donc dans la plupart des cas, les donneurs et les donneuses sont des personnes qui ont été sensibilisées par des couples stériles, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur entourage, dans leur famille, connaissent des couples en mal d'enfants qui souhaitent devenir parents, comprennent l'importance et l'utilité d'une démarche de don de gamètes et donc prennent contact avec nous dans les centres et proposent de devenir donneuse ou donneur.
Mais je crois une précision importante, c'est que ces donneurs, vous leur demandez qu'ils vivent en couple, je crois, pour éviter une confusion supplémentaire entre...
Nous ne demandons pas qu'ils vivent en couple. Ce que nous demandons aux donneurs et aux donneuses, c'est d'être des parents. Alors, bien entendu, quand on est parent, très souvent, on vit en couple. Mais il n'y a pas d'obligation de vivre en couple. C'est-à-dire que ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette démarche de don, notre expérience montre que cette démarche sera d'autant plus sereine et facile pour le donneur qu'il a ou qu'elle a l'expérience de la paternité ou de la maternité. Et que ça va placer son don dans une certaine dimension qui est celle de quelqu'un qui a déjà eu des enfants et qui va aider une personne stérile à devenir parent. Alors, bien entendu, ces personnes vivent en couple, dans la très grande majorité des cas. Et d'ailleurs, la loi prévoit que quand quelqu'un donne, il faut avoir le consentement du partenaire ou de la partenaire. Donc, c'est cela aussi qui a conduit M. David à promouvoir cette idée que c'était un couple fécond, ayant des enfants, qui allait aider un couple stérile à devenir parent.
Professeur David, vous souhaitiez rajouter un élément?
Oui, c'était en effet la formule de don de couple à couple qui a permis à l'époque de faire admettre cette technique qui était l'objet d'un rejet total. Et puisqu'on va parler tout le temps, notre échange va tourner autour de l'anonymat, il faut bien spécifier que l'anonymat n'est pas propre dans les échanges d'éléments du vivant, n'est pas propre au sperme et aux ovocytes, mais c'est la règle dans tout. Les dons, tous les dons étaient bas, et surtout à l'époque, l'exemple que j'ai pris et que j'ai vécu au début de ma carrière a été le don du sang. Il était totalement anonyme. Il n'était pas question de rompre cette règle de l'anonymat. Donc les Sécos au départ se sont inscrits un petit peu dans cette règle générale.
Alors venons-en à cette question d'anonymat. Un nouveau projet de loi est paru en 2010 qui propose une levée partielle de l'anonymat. On va en parler plus en détail. Elle propose la révélation de données non identifiantes. Alors, un point important pour nos éditeurs, que sont ces données non identifiantes, professeur Jouannet?
Ces données non identifiantes sont énumérées dans le projet de loi. Il s'agit de données qui ont trait à ce qu'on pourrait appeler les caractéristiques phénotypiques des personnes, c'est-à-dire à leurs traits physiques. Donc, la taille, le poids, l'âge, des données physiques.
Les motivations du don aussi, je crois, font partie.
Alors, j'allais y venir, c'est qu'indépendamment de cette partie phénotypique, il y a d'autres types de données qui sont d'un autre ordre. Par exemple, la profession, par exemple, la nationalité et par exemple, les motivations du donneur. On pourrait imaginer d'autres données qui ne sont pas prévues dans le texte du projet de loi. Par exemple, certaines personnes sont attachées à la religion, souhaiteraient connaître la religion du donneur. D'autres sont attachés à l'origine ethnique des donneurs, qui est peut-être plus importante pour eux que la nationalité stricto sensu. Donc, On est là face à un ensemble de données dont les contours ne sont pas très, très bien définis. La loi tente de donner des contours, mais c'est un petit peu difficile de savoir précisément qu'est-ce qui intéresse les personnes. Moi, pour avoir rencontré les personnes concernées, je pense que ce dont sont demandeurs les couples qui souhaitent avoir des enfants comme ça, ce sont avant tout des données d'ordre médical. C'est-à-dire d'avoir des données concernant les donneurs qui pourraient être utiles à la santé des enfants plus tard, pour comprendre des pathologies, mieux prendre en charge certaines pathologies. C'est ça la demande principale. En dehors de ça, bon, il y a quelques données sur la situation familiale des donneurs, leur nombre d'enfants, des données physiques sur la taille, le poids, etc. Et un petit peu sur les motivations, mais pas tant que ça. En fait, ça, c'est une enquête qu'on avait faite en 2006 dans les Sécos.
Mais ces données non identifiantes, elles existent déjà pour vous au sein des Sécos, j'imagine. Ça fait partie des informations que vous conservez. Mais ces notions de motivation de don, de nationalité, de religion, en l'occurrence, vous ne traitez pas encore ces informations-là.
Dans les critères que l'on prend en compte pour choisir un donneur pour un couple, on ne tient pas compte de critères comme la nationalité. On ne voit pas pourquoi on tiendrait compte de la nationalité. On ne tient pas compte de la religion. On ne tient pas compte des motivations, je dirais, précisément pour un couple donné. La démarche des donneurs est toujours quelque chose qui nous intéresse, avec qui on discute. Et les motivations des donneurs, elles sont très similaires. Ce sont toujours des hommes ou des femmes qui sont plutôt généreuses, sont plutôt altruistes, sont plutôt détachées de la dimension biologique, de leur aptitude procréative. Ça, c'est un point très important, c'est que très souvent, les donneurs font très bien la part entre ce qui est leur existence en tant que parents et puis le pouvoir biologique de leur gamète qu'ils donnent pour d'autres personnes. Et donc, bon, les motivations des donneurs, on les connaît de manière générale. Maintenant, c'est vrai que nous ne tenons pas une fiche pour chaque donneur sur lequel nous inscrivons les motivations et qui pourrait être transmise aux enfants qui seraient issus de ce don. Ça, nous n'avons pas ce type d'information pour le moment.
Jean-David, quel est le problème alors? En quoi ça gênerait la communication de ces fiches à ces enfants?
Moi-même, j'ai une question à poser à Pierre. En ce moment, vous avez parfaitement bien défini la poussée qu'il y a pour une révélation d'identité aux enfants. Mais qu'en est-il d'une révélation, d'une levée d'anonymat à l'égard du couple demandeur? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, parfois une demande, j'en ai connu à l'époque, peut-être que ça a un petit peu disparu, mais je me souviens parfaitement bien qu'au départ, j'ai eu parfois des demandes de religion du couple receveur. Il y avait une tentation de demander que le sperme d'un couple donné, très très exactement, j'ai vécu ça, d'un couple très très catholique, acceptait de donner à la condition que ça soit utilisé pour des couples receveurs catholiques eux-mêmes. Il est bien évident qu'avec la règle absolue à l'époque de l'anonymat complet, on faisait obstacle, on refusait, j'étais amené à refuser des dons de cet ordre. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on ne discute pas suffisamment de ces aspects. Ceux qui sont en faveur de la révélation de l'identité aux enfants, est-ce que eux-mêmes désireraient, les couples demandeurs, qu'on lève l'identité? Vous voyez, ça nous
mène. On n'a pas discuté de l'identité jusqu'à présent, on a discuté d'un certain nombre d'informations non identifiantes. Et à propos de ces informations, je trouve qu'il serait intéressant qu'on s'interroge sur le sens de cette révélation et sur la signification des informations que l'on transmet. Dans les informations qu'on pourrait donner aux parents, aux enfants, et qui sont des informations qui correspondent à une transmission, il y en a qui sont de dimension physique. C'est vrai qu'on peut imaginer, par exemple, que la taille, que d'autres traits physiques puissent être transmis génétiquement. D'autres n'ont rien à voir avec une transmission génétique et une information génétique.
C'est juste satisfaire la curiosité, vous voulez dire?
Oui, mais c'est là où on peut s'interroger sur le sens de cette curiosité. Mais c'est pour ça aussi que j'ai eu le même type de demande que vous. Et quand j'échangeais avec les couples qui faisaient ce type de demande, je leur disais, mais est-ce que vous croyez vraiment que la foi ou la religion est quelque chose qui se transmet génétiquement? Est-ce que vous croyez que c'est ce qui va changer la manière dont votre enfant pourra croire en Dieu ou appartenir à telle ou telle religion? Et ils le comprenaient très bien que le problème n'était pas là. Donc il ne faut pas mettre dans cette transmission génétique apportée par le donneur un sens qui n'est pas ce lieu auquel correspond ce don.
Vous voulez éviter en fait ce qui se passe dans certains états des États-Unis, à savoir d'avoir des fiches signalétiques. Alors, de
ça, c'est l'autre risque qu'il y a en l'occurrence. C'est vrai que dans certaines banques de sperme américaines ou européennes, les personnes choisissent le donneur sur un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y a des critères qui sont liés à l'éducation, qui sont liés à la religion, qui sont liés au niveau des diplômes, qui sont liés à un certain nombre de choses. Et il faut aussi constater que quelquefois, d'ailleurs, les tarifs changent en fonction des critères. Donc on rentre dans un système qui, pour moi, est très problématique.
On va avancer, si vous le voulez bien, puisque le temps passe sur ce sujet passionnant. Restons sur ce projet de loi qui proposait donc une levée des données non identifiantes, on vient d'en parler à l'instant. Et puis également, elle propose une révélation de l'identité du donneur quand le donneur donne son consentement. Alors, si le donneur donne son consentement, en quoi cela vous pose un problème ? Georges David.
Mais écoutez, le donneur, dans cette hypothèse, a un choix. Mais plaçons-nous maintenant pour les enfants qui vont être conçus. Eux n'ont pas de choix. Ils vont se trouver, selon la décision de leurs parents, de recourir à un donneur identifiable ou non, ils vont se trouver arbitrairement, sans possibilité de connaître, s'ils le désirent, le nom. Donc, c'est ce que je qualifie de fausse bonne idée. Ça a été une proposition de loi qui a été faite il y a 3 ans à peu près, par Valérie Pécresse et co-signé par une centaine de députés. C'était donc parfaitement sérieux comme demande. Et lorsque j'ai expliqué cette contradiction où l'on plongerait les enfants qui se trouveraient arbitrairement dans la catégorie donneur révélable ou donneur strictement anonyme, eh bien, Valérie Pécresse s'est rangée à notre opinion commune au niveau des Écosses et a retiré ce projet. Et il ne figure plus maintenant dans les propositions de loi.
Mais ceci existe par exemple pour l'accouchement sous X. Une femme peut faire le choix de laisser son nom dans une enveloppe cachetée pour l'enfant à sa majorité si jamais il fait la demande de connaître l'identité de sa mère, non ?
Oui.
Pierre Jouannet.
Oui, oui, bien sûr. Mais la situation que vous décrivez n'a rien à voir avec les procréations dont on parle. D'ailleurs, vous avez parlé d'identité de sa mère. Parce qu'effectivement, au départ, il y a une mère qui a accouché, clandestinement, certes, et dans des conditions, mais il y a une histoire. Cet enfant a été conçu par une femme qui a porté cet enfant et qui, pour des raisons qui lui sont propres, n'a pas pu assumer la prise en charge de cet enfant à la naissance. Mais il y a une mère. Là, la question, c'est de savoir qui est la mère et qui est le père ? Est-ce que la mère et le père, ce ne sont pas cet homme et cette femme qui ont souhaité avoir cet enfant dans ces circonstances-là ? Ou est-ce que c'est plutôt le donneur ou la donneuse ? C'est ça la vraie question. Vous dites qu'on est opposé à la levée de l'anonymat. Moi, je n'ai pas de position de principe pour ou contre la levée de l'anonymat. En plus, je considère personnellement que cette question n'est pas une question d'ordre médical. C'est une question d'ordre social qui met en jeu des problèmes de filiation de tous ordres et qui est un problème de société. Donc, je ne suis pas contre a priori, mais ce que je pense, c'est que si on lève l'anonymat des donneurs, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse au sens de la levée de cet anonymat, aux conditions de cette levée et aux conséquences de cette levée. Et je trouve que ce qui manque le plus dans le débat actuel et dans la révision du projet de loi, c'est une réflexion sur tout ça. C'est-à-dire qu'on se braque sur pour ou contre l'anonymat et on n'essaye pas de voir au-delà qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est évident que ça ne va pas être innocent si on lève l'anonymat, c'est-à-dire si on révèle son identité. Ça ne va pas simplement être une image désincarnée qui sera présente dans un coin de l'histoire des personnes. Si le donneur ou la donneuse est présent, eh bien, il va se créer des liens probablement entre l'enfant et ce donneur ou cette donneuse. Et ces liens vont avoir des conséquences pour la famille où est né cet enfant, c'est-à-dire aussi les parents stériles et puis tout le reste de la famille. Et ces liens vont avoir des conséquences pour la famille du donneur. Ces liens peuvent avoir des conséquences pour d'autres. Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, les personnes qui souhaitent lever l'anonymat sont beaucoup plus à la recherche de l'identité des autres enfants qui ont été conçus avec le sperme du même donneur que l'identité du donneur lui-même. Donc, il faudrait réfléchir à tout ça, et c'est en cela que la question de l'anonymat, à mon avis, est une vraie question, mais qui n'a pas suffisamment été réfléchie. Je regrette beaucoup d'ailleurs qu'on n'ait pas profiter de l'expérience des pays qui ont déjà changé les choses dans ce domaine.
Et justement, je vous propose d'observer une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler de cette levée d'anonymat en Suède, en Grande-Bretagne et puis en Allemagne. A tout de suite.
La Villa Médicis à Rome vous ouvre ses portes. Privilège rare, Marc Bayard, historien de l'art, nous dévoile quelques secrets de ce lieu magique et de ses hôtes, en nous faisant parcourir l'histoire de la villa depuis la construction en 1576 par le cardinal Ferdinand de Médicis, l'installation de l'Académie de France à Rome par Colbert en 1666 et ainsi jusqu'à nos jours. Poursuivi par une rencontre de l'ancien directeur de la Villa Médicis, Frédéric Mitterrand, sur les liens entre l'Académie des Beaux-Arts et la villa. La Villa Médicis, deux émissions Carrefour des Arts, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie des professeurs Georges David et Pierre Jouannet, avec qui nous parlons de cette levée potentielle d'anonymat pour le don de gamètes. Venons-en, si vous voulez bien, aux exemples européens. Sur les 35 pays européens, je crois qu'il y en a 10 qui ont opté pour une levée d'anonymat. On a donc quelques exemples pour savoir si cette levée d'anonymat est bien ou pas, ou en tout cas on peut observer les conséquences. Je crois que vous allez pouvoir nous parler de l'Allemagne, Georges David.
Eh bien, il est légitime de parler de l'Allemagne parce que c'est le premier pays qui est statifié par la loi au problème de l'anonymat. Et je vais vous raconter pourquoi nous avons suivi avec grande attention cette décision allemande. La règle, lorsque j'ai fondé, nous avons été quelques-uns à fonder les Sécos, il se pratiquait dans tous les pays européens des inséminations clandestines, tout à fait clandestines, n'est-ce pas ? Ce n'était pas révélé, la religion s'était prononcée formellement contre et il n'y avait pas de loi régissant. Les Écosses font une percée dans ce domaine. En quelque sorte, une ouverture permise par Madame Veil à titre un peu expérimental sur le projet que nous lui avions présenté. Mais d'autres pays étaient immédiatement très intéressés par cette percée faite par les équipes françaises sous la bénédiction de l'État. À l'époque, la loi n'existait pas. Et nous étions, dès lors que nous avons ainsi fonctionné avec les premiers centres, nous étions bien entendu en relation avec des équipes allemandes qui ont voulu se saisir de ce précédent français pour créer eux-mêmes avec une demande de statut de Sécos. C'était une des demandes de la part de l'Italie, mais surtout de l'Allemagne. Et le problème a donc très très vite été posé de manière concrète à l'Allemagne. Peut-on réaliser ? Et il y a eu une décision, c'est remonté, non pas au Bundesrat, mais c'est remonté à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui, pour l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, a décidé que si on pratiquait, il n'y avait pas d'interdiction, donc, mais si on pratiquait des inséminations avec sperme de donneur, il fallait signaler l'identité du donneur. Et à l'âge de 18 ans, donc rupture de l'anonymat complet, et à l'âge de 18 ans, l'enfant conçu par ce donneur serait informé. Vous voyez, il n'y avait pas de choix là, c'était... Ah, vous désirez au couple, vous désirez, eh bien sachez que à l'âge de 18 ans, l'identité du donneur sera révélée.
Donc les couples ont arrêté ces...
Eh bien c'est simple.
Ces inséminations.
Toutes les équipes ont plongé dans la parfaite clandestinité pour l'Allemagne. C'est vraiment un exemple poussé jusqu'à l'extrême, mais tout à fait démonstratif de ce que la révélation est un handicap majeur.
Alors d'autres exemples, celui de la Grande-Bretagne et celui de la Suède, je crois, qui en 2001 a levé aussi son anonymat.
Oui, l'exemple de la Suède est intéressant parce qu'en dehors de l'Allemagne, c'est l'exemple le plus ancien où la loi a changé. La loi suédoise a décrété que le don ne serait plus anonyme en 1984 et la loi est mise en œuvre depuis 1985. Donc on a maintenant 25 ans de recul. Et en Suède, les enfants peuvent accéder à l'identité du donneur quand ils ont l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis 2001 pour les premiers enfants qui sont nés sous le nouveau régime. Quelles ont été les conséquences ? Bon, de manière très rapide, la première conséquence, c'est que beaucoup de couples suédois qui voulaient des enfants par don de sperme ne se sont plus adressés dans les centres suédois. Le nombre d'enfants nés par don de sperme en Suède par rapport à la France, par exemple, dans la même période, est trois fois moins important, par million d'habitants, bien entendu. Donc, les couples ont renoncé à leur projet parental, ou alors ils sont allés dans d'autres pays, et ça, on le sait parfaitement, on a des chiffres, comme le Danemark ou la Finlande, pour pouvoir procréer de manière anonyme, enfin, dans un système de dons anonymes. Donc, voilà, ça, c'était une première conséquence. Mais peu importe, ce qui semble surtout intéressant, c'est de savoir à quoi ça a servi. Comment ça se passe en Suède aujourd'hui? Comment les enfants qui ont été conçus par don de sperme établissent un lien avec les donneurs? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et là, c'est très impressionnant et très intriguant, parce que, autant qu'on le sache, aujourd'hui, aucun enfant suédois conçu par don de sperme n'a demandé à connaître l'identité des donneurs et à rencontrer le donneur. Donc,
Le savent-ils? Savent-ils qu'ils ont été conçus sous cette forme-là?
Oui, je parle des enfants qui ont été conçus depuis que la loi a changé.
Et qu'ils le savent, que les parents leur ont dit.
Depuis 2001, les enfants conçus par don de sperme peuvent connaître. Donc, depuis 2001, aucun enfant conçu par don de sperme n'a demandé l'identité du donneur. Pourquoi c'est comme ça? Une des explications la plus souvent avancée, c'est que la raison principale, c'est que les couples qui ont des enfants par don de sperme en Suède n'informent pas l'enfant des modalités de sa conception, ne lui disent pas qu'il a été conçu par donneur. Et donc les enfants, ne sachant pas ça, ne peuvent pas demander à rencontrer le donneur. Et ça, c'est un point très important, c'est que c'est quelque chose que l'on pressent aussi par l'expérience des Sécos, où les parents nous disent qu'ils sont tout à fait prêts à informer l'enfant des modalités de sa conception, c'est-à-dire à ne pas maintenir secrète l'histoire de l'enfant, et de l'en parler à lui, d'en parler à l'entourage. Mais on sent bien que si le donneur n'était plus anonyme, c'est-à-dire que s'il était présent dans l'histoire de la famille, sans doute les choses changeraient, parce que je pense que les couples craignent un petit peu ce partage de paternité qui est évoqué par certains chercheurs en sciences humaines qui disent que, en fait, il faut lever l'anonymat parce qu'il faut aller vers un système de pluriparenté. Et ce système de pluriparenté, qui théoriquement est très séduisant, je le conçois, est-ce que les personnes concernées dans notre société aujourd'hui telle qu'elle est sont prêtes à le vivre avec tout ce que ça signifie? Je crois que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'exemple britannique est très intéressant parce que la Grande-Bretagne a changé sa loi en 2005. Donc on n'a pas le recul que l'on a en Suède pour voir ce qui se passe au niveau des enfants. Par contre, on voit ce qui se passe au niveau des donneurs et au niveau des couples. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, la loi autorise les couples qui souhaitent avoir un enfant par don de sperme à venir avec leur propre donneur dans le centre d'AMP pour procéder à la procréation assistée. Et donc, en fait, il y a un lien qui se crée au départ, avant même la conception, entre un couple hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs, et un donneur. Et tous ensemble, ils vont initier la création d'un enfant dont on peut imaginer que par la suite, dès cet enfant, à se développer, etc.
Donc on est encore dans la pluriparentalité dont vous parlez.
Ça rejoint un des points de la loi, ou du projet de loi actuel qui, moi, me pose problème, c'est que si on pense que cette levée de l'identité du donneur ou de la donneuse est importante pour que l'enfant puisse construire sa personnalité, construire son identité, pourquoi prévoir que ce ne soit possible qu'à partir de 18 ans, comme le prévoit le projet de loi? Un enfant ne commence pas à construire son identité à 18 ans. Il l'a construit bien plus tôt. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que si on doit lever l'anonymat, je préférerais qu'on aille vers le système britannique où les choses pourraient se faire dès le départ. Et dans un nouveau système de parenté, complètement inconnu, on ne connaît pas toutes les conséquences, qui serait intéressant, mais qui ne correspondrait pas à cette situation complètement hybride que nous prépare le projet de loi dans sa forme actuelle.
Alors, dans le scénario où, par exemple, ce projet de loi est voté avec une levée d'anonymat, se pose la question du coup du don qui baisse et le débat qui peut revenir sur la gratuité du don pour que ce don continue.
Moi, je ne crois pas que le problème du don qui baisse n'est pas un problème. En Grande-Bretagne, effectivement, ils ont des difficultés depuis la loi, mais pas parce que le nombre de donneurs a diminué. Parce que, et c'est bien logique, si on lève l'anonymat, les donneurs peuvent contrôler le nombre d'enfants qui sont conçus avec leurs gamètes. La loi dit qu'il y a un maximum de 10, mais peut-être que le donneur n'est pas prêt à accueillir des enfants qui vont venir frapper à sa porte. Donc, logiquement, les donneurs disent, écoutez, moi je suis prêt à donner pour un, pour deux enfants, mais peut-être pas plus. Donc, aujourd'hui en Grande-Bretagne, s'il y a des difficultés, c'est pas parce qu'il y a moins de donneurs. Il y a autant de donneurs, mais on ne peut pas répondre à la demande parce qu'on peut faire beaucoup moins d'enfants avec leur sperme. Donc il faudrait qu'il y ait 10 fois plus de donneurs aujourd'hui qu'il y en avait avant. Et Je pense que pour nous, en France, de toute façon, le problème du nombre de donneurs ne sera jamais un problème si on se donne les moyens d'informer, de sensibiliser et de recruter des donneurs. Quel que soit le système, je pense qu'on pourra recruter le nombre de donneurs qu'il faut si, encore une fois, on s'en donne les moyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on pourra le faire dans l'avenir.
Alors, venons-en au troisième protagoniste. On a rapidement parlé des couples hein, au travers de ces exemples européens que vous venez de nous citer. Parlons des enfants, troisième protagoniste. On entend parler, alors ce sont souvent des minorités, mais qui se font entendre, des enfants qui sont issus de cette diadée, en fait. Hein. Donc, ces enfants traduisent un mal-être, une souffrance. Est-ce qu'on a des données psychologiques sur des enfants qui sont issus de cette forme de procréation ?
Non,
Pierre Jouannet.
Je vais répondre parce que j'ai rencontré un certain nombre de ces enfants.
Cette souffrance, elle est réelle, j'imagine,
oui,
elle est
tout à fait réelle. Ce que je dois préciser, c'est que les réflexions que j'ai retirées de ces entretiens, elles s'appuient aussi sur des entretiens que j'ai eus avec des enfants qui ne sont pas dans cette souffrance. Parce que je pense que si on veut vraiment comprendre ce qui se passe pour les enfants, il ne faut pas se contenter de voir des enfants en difficulté. Il faut aussi essayer de rencontrer des enfants qui ne manifestent pas de difficulté. Et donc oui, il y a des enfants qui ont une souffrance réelle. Il y a d'ailleurs un tas d'enfants qui ont un tas de souffrances dans tous les domaines. Je veux dire, bon, mais eux, ils ont une souffrance réelle, et disent-ils, par incapacité de rencontrer le donneur qui est à leur origine, par cette pièce manquante dans leur histoire. Bon, la souffrance est réelle, il faudrait les aider par rapport à cette souffrance. Moi, je voudrais dire deux choses sur ce plan. C'est que premièrement, souvent, cette souffrance est aussi la conséquence d'un certain échec ou d'un manque dans la relation avec les parents et dans la manière dont ces enfants ont appris comment ils avaient été conçus par don de sperme. Je parle de don de sperme parce qu'on n'a pas encore le recul pour les enfants nés d'un don d'ovocyte. Et donc, souvent, ce sont des enfants qui ont appris dans des circonstances émotionnelles très chargées, difficiles, tardivement, ces histoires, et ça a eu des conséquences psychologiques importantes pour eux. Et donc, je crois que le problème est beaucoup plus sur la manière dont les parents se comportent vis-à-vis des enfants, la manière dont les parents les informent. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut accompagner les parents et qu'il y a un travail à faire, qui est d'ailleurs fait actuellement dans les Psychos. La deuxième point que je voulais dire, c'est que c'est un peu illusoire de croire que ces difficultés vont être réglées parce qu'on connaîtra l'identité du donneur. Je ne crois pas que la connaissance de l'identité du donneur va résoudre tous les problèmes, toute la souffrance, toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces enfants. J'en suis pas du tout persuadé par les rencontres que j'ai eues avec eux et avec ceux qui vont bien. Je crois que le problème, il est ailleurs. Et donc, si on regarde la balance bénéfice et risque de cette rencontre qu'il pourrait y avoir entre l'enfant et les donneurs, et des liens qui vont se développer, et toutes les autres conséquences qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que pour le moment, on a quand même un certain nombre d'arguments pour penser qu'il y a plus d'intérêt à garder l'anonymat du don qu'à le lever.
On risque d'entretenir la confusion, en fait. Hein.
La confusion, mais aussi beaucoup l'illusion.
L'illusion. Jean-David,
je compléterai peut-être en soulignant que ceux qui se prononcent, j'allais dire allègrement, mais en tous les cas fermement, dans le public, chez les sociologues qui s'occupent et qui réfléchissent à ces problèmes, ce sont des personnes tout à fait respectables, ayant beaucoup réfléchi, mais qui ne sont pas directement concernées. Et lorsque nous avons affaire au couple, parce que bien entendu que cette stérilité qui se frappe au hasard a aussi bien frappé des couples du corps médical, et il se trouve que j'ai avec eux, surtout au début, c'était moi qui en avais une charge un petit peu directe, j'ai des liens avec eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ces continuels débats qui ressurgissent tous les deux ans, l'occasion d'une loi, etc., eh bien, c'est la cause d'une grande souffrance pour les couples qui croyaient avoir réglé leurs problèmes au départ, qui avaient fait cet effort sur eux-mêmes et surtout sur lui-même, parce que c'est l'homme qui est frappé le plus dans ceci, et qui se trouve avec 1, 2, 3, 4 enfants, que tout se passe parfaitement bien, que tout d'un coup ressort, la société est en train de ressortir sous de bons sentiments, de grandes déclarations de bons sentiments, l'idée de la nécessité d'une révélation. Mais c'est pour eux une douleur, parce qu'ils sont amenés, conduits à s'interroger eux-mêmes. Vous voyez, je trouve que la société ne cherche jamais à se demander, mais comment réagissent-ils, eux ?
Ça, c'est
eh bien,
très
nous
grave.
Sommes là,
vous avez,
peut-être.
Vous avez raison.
Pierre Jouannet.
La société n'aide pas beaucoup ces personnes. Et c'est vrai que des titres de journaux, comme nous voyons à longueur de temps à propos de ces enfants, ont titre « né de personne » ou « né de père inconnu », c'est dramatique pour les personnes confrontées à ça. Et en plus, il y a souvent un discours culpabilisant à l'égard de ces couples. Et je trouve que ça, c'est grave, parce que ces couples, il faut les aider, il ne faut pas les enfoncer.
J'appuie totalement.
Merci, professeur David, merci, professeur Joannet, de nous avoir donné ces explications sur ce don de gamètes. Pourquoi est-il préférable qu'il reste anonyme ? Merci à tous les deux. Au revoir.